LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
We are here.
Nous sommes là.
Above the skies of Metro Detroit.
Au-dessus du ciel de Détroit.
Spanning counties.
Survolant les comtés.
To all of you who hear my voice.
À vous tous qui m'écoutez.
On the night of April 1st,
en cette nuit du 1er avril de l'an 77, les conditions chaotiques de la musique sur la planète Terre ont provoqué l'intervention d'aliens venus de l'autre côté de la Voie lactée. Même si je ne suis pas de votre monde, je suis votre frère. Un frère qui a voyagé à travers le temps et l'espace pour vous transmettre les vibrations célestes du paradis.
And once again, we shall add the elements of love, creativity, and mental expansion.
Sans oublier l'amour et la créativité
to our projects.
Pour nos projets.
On your planet.
Sur votre planète.
For the next 5 hours, you will be showered.
Au cours des 5 prochaines heures,
with music.
Vous allez être arrosé de musique.
From another time.
D'un autre temps. D'une autre
from
galaxie.
Another galaxy, from another solar system.
D'un autre système solaire.
I shall now begin my final
Je vais maintenant amorcer ma descente finale vers la planète Terre.
To the land
au pays
that is called
que l'on appelle
Metro Detroit.
Métro Détroit. Technomusique, aller-retour transatlantique. Un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Gaël Gillon. Tous les soirs, dans l'émission The Electrifying Mojo de Charles Johnson, les jeunes de la classe moyenne noire de Détroit écoutent de la New Wave anglaise, de la disco italienne et les Allemands de Kraftwerk, qui eux-mêmes adoraient les groupes de soul américains signés sur le label Motown, fondé par Berry Gordy à Détroit. Le journaliste John Savage a donné un nom à ce phénomène, le double effet miroir. La musique voyage au-dessus de l'Atlantique, passe d'une culture à l'autre et est copiée dans les deux sens. La techno s'est prêtée au jeu. Pour exister et se développer, elle a eu besoin de voyager. C'était aussi un antidote à la déprime à Détroit. Au début des années 80, la ville de Ford, Chrysler et General Motors ne s'est toujours pas relevée de la crise pétrolière et de la concurrence des constructeurs japonais. Installé à Berlin, Alan Oldham est un producteur techno de Détroit qui a été DJ pour le collectif Underground Resistance. Il a commencé par la BD de science-fiction et a dans les mains les planches de son dernier album, The Return of Johnny Gambit.
It takes place in a city called Seventh City.
Okay. La scène se passe dans une ville qui s'appelle Seventh City. Seventh City, c'est une allégorie de Détroit. Le concept de Seventh City, c'est que la ville est prisonnière d'un champ de force depuis 50 ans. Elle est coincée sous ce dôme. La vie à l'intérieur de la ville évolue, mais elle est coupée du reste. Et à l'origine, Seventh City devait être une ville expérimentale où on allait envoyer en premier tous les prototypes. Les prototypes de voitures, les nouveaux produits de pointe, ils devaient tous être envoyés pour être testés à Seventh City. Mais il y a eu un accident qui a généré ce champ de force au-dessus de la ville. Et là, sur cette planche de BD, on voit le dirigeable qui fait la liaison entre les banlieues résidentielles et le centre-ville. À Détroit, il y a une route qui s'appelle le 8 Mile Road et qui est la ligne de démarcation entre la ville et les banlieues résidentielles. Dans mon histoire, cette route est représentée par ce dôme impénétrable. Car dans les années 60 et 70, les Blancs de Détroit ont fui la ville pour s'installer dans les banlieues. Et cette route grouillait de policiers pour empêcher les mauvaises personnes de gagner les banlieues. C'est un symbole du Détroit noir et du Détroit blanc, que l'on voit aussi dans le film 8 Mile. Et l'esthétique de Seven City est art déco, très proche du film de Fritz Lang, Metropolis.
Red, one, two, three, four.
Détroit, c'est pas une ville à la mode aux États-Unis, c'est pas une ville intellectuelle, c'est pas une ville culturelle, c'est une ville industrielle. Et qui vit donc dans une forme d'isolement. Et les grands succès de Détroit, c'est les succès de personnes qui se sont faites toutes seules.
Pierre Héville, chroniqueur musical et auteur de Détroit sans pleurs, le livre référence sur la musique de la ville.
Je prends quelques exemples. Ça commence peut-être avec Johnny Hooker, qui est un balayeur des usines Ford, qui est monté du sud. Ensuite, ça sera Jackie Wilson, qui est un chanteur de rhythm and blues, qui va inventer le jeu de scène athlétique que James Brown prendra plus tard. Et dans l'ombre de Jackie Wilson va grandir un songwriter qui va devenir un industriel de la musique immense, qui est Berry Gordy, qui va construire ce label Motown dans les années 60, le label des Supremes, le label de Marvin Gaye et des Temptations. Et après, George Clinton va inventer le P-Funk. Et puis ensuite, on va avoir des individus qui vont seuls dans une ville isolée des grands courants médiatiques et culturels inventer des sons nouveaux ou ressusciter des sons anciens en leur donnant un nouveau sens. Donc c'est les musiciens de la techno de Détroit, mais c'est aussi Jack White. Les aventuriers de la musique à Détroit, c'est des gens qui sont indépendants, qui sont jamais vraiment dans le moule commercial. Et ça renvoie aussi à cette image provinciale qu'avait Détroit, qui est que on la regarde de haut. Et puis, à partir des années 50-60, et surtout des années 60, ça va être une ville qui fait peur. Parce qu'il y a eu des émeutes, il y en a eu dans les années 40, il y en a eu les plus violentes des années 60 en 1967. Détroit va devenir, à partir des années 60, le symbole de la faillite des centres-villes américains, avec les magasins fermés, avec les HLM qui brûlent, avec la fuite aussi des classes moyennes blanches et des classes aisées vers les banlieues. Elle aura la réputation dans les années 70 d'être Murder City. Les artistes de Détroit et les habitants de Détroit y portent sur leurs épaules cette mauvaise réputation et ils essayent de la retourner en faisant une musique qui est plus brutale, plus intense, plus forte que le reste de la musique américaine. Et dans les années 90, quand Détroit va faire sa réputation sur la musique électronique, le groupe Underground Resistance va prendre ce slogan « Hard music for a hard city ».
Avant Underground Resistance, avant la techno, des jeunes lycéens europhiles et dandys jouent les promoteurs de soirées dansantes à Détroit. Ils forment des collectifs, quartier par quartier. Leur rivalité favorise l'émulation. Ils s'arrachent les meilleurs musiciens, les meilleurs DJ, qui doivent rester à la pointe. Heureusement, il y a de bons disquaires à Détroit. DJ Stingray était avec les pionniers de la techno quand ils ont fait leurs premiers pas.
Progressive music. It was from Byright Music. And he was the
La musique progressive, on l'achetait à Byright Music. C'était le seul magasin de la ville qui se fournissait en musique italienne, française, qui importait des disques de tous les pays d'Europe et qui avait aussi des disques des labels indépendants américains.
Coming into this store,
Donc tu avais plein de jeunes noirs, des mecs pour la plupart, qui venaient au magasin pour s'acheter cette musique, pour se distinguer des autres. Ils voulaient créer leur propre culture au sein de la culture dominante.
Et vous pouviez écouter de la disco italienne grâce à l'émission de radio Mojo aussi.
Bien sûr. Mojo, c'était notre sensei. C'était un DJ comme aucun autre. On a eu beaucoup de chance de l'avoir. Il a fait notre éducation, sans que l'on s'en rende compte. Je n'ai pas beaucoup dormi à cause de lui. Sans lui, j'aurais été meilleure à l'école. Car son programme commençait à 22h et je l'écoutais jusqu'à 1h, 2h du matin. C'est grâce à son émission que j'ai écouté Pocket Calculator de Kraftwerk la première fois. Et tellement d'autres morceaux. Des choses qu'on n'aurait jamais jouées sur les radios commerciales de Détroit ou à une fête. Mojo nous a vraiment éduqués.
And if it feels good to you, try it on. But if you find it repugnant, just remember, you have found it. You found out where it is.
Ils écoutent la radio, et à la radio, ils écoutent un disc jockey qui se fait appeler The Electrifying Mojo, qui est une espèce de Sun Ra ou de George Clinton de la radio, en sens qu'il mélange plein d'influences différentes autour d'une thématique de science-fiction. Il s'imaginait pilote d'une soucoupe volante, et à l'intérieur de cette soucoupe volante, il survole à la fois le Grand Détroit, mais il survole aussi toute la musique de l'époque, et il passe dans ses playlists le soir des morceaux des musiciens noirs américains les plus créatifs, comme Prince, dont il a été un des premiers fans, ou Rick James, mais aussi tous les sons nouveaux qui viennent d'Europe, donc la technopop, un peu de rock aussi, New Wave, les B-52s, etc. Et il mélange tout ça et il fascine, en fait, avec ses histoires d'extraterrestres, ces battles qu'il organisait entre deux artistes en passant les disques les uns après les autres. Il fascine la jeunesse de Détroit qui se cherchait, en fait, une identité hors de la ville déchue où ils habitaient. Et cette identité-là, ils vont aller la rechercher en Europe.
B-52s on 107.5, select fine, Mojo Detroit, what's happening out there? Can you hear me?
I do know that there was a subculture.
Je sais qu'il y avait une culture alternative à Détroit qui s'opposait à la culture standard et à tous les trucs de Motown.
So yeah, you had a subculture that
il fallait s'échapper.
Escape. And when I say escape, I don't mean in a bad way, but
ce n'était pas une fuite pour autant. Il fallait se démarquer. On n'était pas à l'aise avec les gens de la classe ouvrière. Les voyous, c'était pas notre truc non plus. Les gens de Motown, ça n'allait pas. Ils étaient trop vieux. Donc c'était une progression naturelle que l'on voit aussi dans d'autres villes. Cette émergence d'un mouvement de jeunes qui casse le moule et creuse les fondations de nouvelles traditions, de nouvelles modes, de nouvelles esthétiques sonores. Je pense que c'était une progression naturelle et pas vraiment de gars qui se sont dit un jour « Ok, on va créer quelque chose de nouveau ». C'était quelque chose d'organique.
Ils étaient trois, Juan Atkins, Kevin Sanderson et Derrick May. Juan Atkins s'est fait renvoyer de son lycée de Détroit et est parti vivre chez sa grand-mère dans une bourgade blanche appelée Belleville. Gamin, il jouait avec des groupes de funk, mais à Belleville, il est à plusieurs dizaines de kilomètres du premier batteur. Alors sa grand-mère cède et lui achète un synthétiseur. Il fréquente aussi un étudiant, Richard Davis, passionné comme lui de musique électronique. En 1981, leur premier morceau, Alleys of Your Mind, fait un carton.
Ensemble, ils vont décider de faire un groupe où ils vont mélanger leurs deux passions. D'une part, la musique électronique européenne et d'autre part, cet imaginaire un peu dystopique qui fait que ce groupe, qui va s'appeler Cybotron, il va être à la fois très fun et très dansant dans sa musique et en fait très sérieux et très sombre dans ses paroles. Parce que quand on lit ses paroles, elles font référence à la guerre du Vietnam, elle fait référence au capitalisme, elle fait référence à l'aliénation de la société moderne. Et donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant aux États-Unis. C'est des choses qu'on voit en Europe. Il y a pas mal de groupes de New Wave qui pratiquent ce mélange-là. Tout le rock industriel né de Throbbing Gristle manipule un imaginaire autour des rapports de pouvoir, de la sexualité, du sadomasochisme, voire du fascisme ou du nazisme. Enfin, un univers très décadent, très européen, en fait, qu'on ne retrouve pas vraiment aux États-Unis et encore moins dans la musique dite noire. Et là, ce qui est très surprenant, c'est que c'est des musiciens noirs qui s'approprient cet univers et qui inventent une science-fiction noire, un afrofuturisme à la façon de Détroit et un univers tellement puissant qui continue encore aujourd'hui de marquer les esprits. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing.
Juan Atkins fait des émules. Et pendant ce temps-là à Londres, Mark Moore, qui va bientôt sortir ses tubes avec S-Express, est DJ au Mod Club et au Blitz. Il passe des disques électro-hip-hop et des titres New Wave des néo-romantiques. Visage, Human League, Heaven 17, Dépêche Mode. Sur la piste, les danseurs portent des tenues excentriques. Une réponse à l'univers testostéroné du punk, devenu bagarreur et presque conventionnel. Les sets de Mark Moore ont du succès, on lui confie la grande piste de danse. Il est sous pression, il doit épater avec de nouveaux morceaux.
Going to the import shop every week. Different import shops like Bluebird.
Chaque semaine, on allait au magasin de disques d'import.
Gradually, we noticed.
Il y en avait plusieurs. Bluebird, des Grooves. Et petit à petit, on a remarqué que les disques qu'on achetait venaient tous de Chicago et de Détroit. Tout ce qu'on aimait venait de ces deux endroits. Alors on s'est dit, il faudrait qu'on trouve un nom à ce style, car ça n'avait pas de nom. Et après, ça s'est appelé techno et house music. Donc on jouait tous ces morceaux. C'était en 1985.
And then, did the crowd disappear from the dance floor? Est-ce que les gens ont fui la piste de danse quand vous avez passé ces disques la première fois?
Seulement dans les clubs hétéros. Mais au Mod Club et aux soirées pyramides, ça les rendait dingues, complètement dingues. La première fois que j'ai joué le morceau Strings of Life, la piste de danse s'est vidée. Il n'y avait que deux personnes à danser. Mais je me suis dit non, je ne vais pas jeter l'éponge. Et la semaine suivante, je l'ai rejoué. Et là, la moitié de la piste est restée. Et la semaine d'après, j'ai recommencé et tout le monde est resté. Et la semaine suivante, les gens se sont rués vers la piste. Donc ça a pris 4 semaines.
Et pourquoi étiez-vous si persuadé que c'était le futur de la musique alors?
Parce que je l'avais écouté. Et ça m'avait transporté dans un tel état d'extase. J'étais là, mais mon Dieu, c'est tellement incroyable. Et je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que les autres ne ressentent pas la même chose en écoutant ça? Ça m'a transporté dans un état d'euphorie et de joie, grâce à la musique. Et quand l'Acid House a décollé en Angleterre, il a fallu que les gens prennent des pilules d'ecstasy pour se défaire de leur inhibition par rapport à cette musique qu'ils ne comprenaient pas au début. Même si beaucoup de gens n'ont pas eu besoin d'ecstasy pour apprécier, la musique en soi leur suffisait.
quite early in the process, Derek May and then a little bit later, Carl Craig came to London.
Et donc assez rapidement, Derek May puis Carl Craig ont fait le voyage de Détroit. Est-ce que vous pouvez décrire vos échanges, vos premières rencontres?
J'ai rencontré Derek May parce que le groupe de mes amis, Adrenaline MOD, venait de signer sur MCA. Car au début, les grandes maisons de disques signaient des groupes de house, juste au cas où ça explose. C'est comme ça que le monde de la musique fonctionne. Ils signent des choses pour être prêts. Et donc mes amis avaient demandé à MCA de faire venir Derek May pour produire leurs morceaux. Et il est venu. Et un jour, ils m'ont appelé et ils m'ont dit « On est au studio juste à côté de chez toi avec Derek May. On vient de terminer notre session et on passerait bien te voir. » Et j'ai répondu « Mais oui, venez !» Et Derek est venu avec eux dans mon minuscule HLM qui était recouvert de disques. On ne voyait plus le sol. Et Derek est arrivé et il a dit « Oh, des disques !» Et il a ramassé un disque de Depeche Mode. Et il a dit « Mais je raffole de Depeche Mode !» Et il a regardé les autres disques et on s'est tout de suite très bien entendu. Et après, je le voyais à chacun de ses séjours. Et plus tard, car j'avais commencé à sortir mes disques de S-Express et ils ont eu beaucoup de succès. Donc pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé avec un paquet d'argent. Et je me suis payé un appartement de pop star. C'est un peu nul. Mais en même temps, que faire d'autre quand ton premier single cartonne? Bref, il restait chez moi à chaque fois qu'il venait. Il m'a dit des années après que c'était le Havre de Détroit. Parce qu'il m'appelait pour me dire « Hey, Kenny Larkin débarque, est-ce qu'il peut rester chez toi ?» Ou « Carl Craig arrive. » Alors Carl Craig est venu. Il avait pas mal de temps libre, donc il a découvert les clubs de Londres avec moi. Je lui ai demandé de programmer les batteries pour mon deuxième album de S-Express. Donc Carl est devenu un deuxième frère. Et il absorbait toutes ces nouvelles influences qu'il mélangeait avec ses propres influences. Donc je le nourrissais. Mais en même temps, lui et les gens de Détroit m'abreuvaient, moi et les autres aussi. C'était un échange culturel qui n'était pas programmé. C'était un processus naturel et organique.
On
s'influençait l'un et l'autre, mais sans injonction, sans dire « Hey, tu dois faire ça ou écouter ça ». On allait souvent voir des films au cinéma Scarlett aussi. Et je lui ai montré le film Suspiria. Et quelques temps après, il a sorti un morceau qui s'appelait Suspiria. Il est chouette, Carl. Derek et Carl sont vraiment des cœurs.
Les piliers de béton du métro aérien entre Charleroi et Marchienne-au-Pont sont recouverts de graffitis. On se croirait un peu aux États-Unis, mais nous sommes bien en Wallonie. Les vestiges industriels sont légion. Vu des wagons, les anciennes tours d'extraction et les vieux châssis à molette semblent battre la mesure pour le paysage de terril qui défile dans l'ancien bassin minier et aussi berceau de la sidérurgie belge. Il y a une imposante fonderie, la Providence. Reconverti en salle de concert, le Rockeril. La salle programme parfois des DJ de Détroit. Le producteur Fabrice League les connaît bien. Le Carolo a même signé des morceaux sur le label KMS de Kevin Saunderson.
On va rentrer par ce qu'on appelle la cathédrale.
On laisse rentrer.
Alors pourquoi la cathédrale? Pas parce qu'on y faisait des messes, mais par rapport à sa hauteur. 22,50 m de haut. Et c'est l'entrée, évidemment, du Rockeril. Charleroi, Détroit, pour moi, c'est quelque chose qui sont deux villes qui sont lié par une apogée et un déclin finalement similaires. Et c'est vrai que bon, voilà, j'ai joué à Détroit, mais c'est vrai que j'ai joué aussi dans le nord des États-Unis, Cleveland, Columbus, etc. Où si on prend Cleveland, c'est un peu la même histoire aussi. Donc toute cette zone comme ça, où, qui sont des zones post-industrielles.
Comment est-ce que vous avez découvert la techno de Détroit ?
Alors ici, on avait la patinoire en vogue ici à Charleroi, où les jeunes allaient, c'était le rendez-vous du dimanche, tout le monde allait patiner, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Et tout d'un coup, j'entends un truc, et alors ils mettaient beaucoup de musique, il y avait tout, et puis tout d'un coup, j'entends un truc, et waouh, c'était une grosse claque, quoi. Et je me dis, waouh, c'est quoi ? Et coup de chance, en fait, j'avais un ami qui travaillait à la radio, et qui vient près de moi et me dit, waouh, ouais, c'est de la musique de Détroit, c'est Inner City, c'est de la musique de Détroit. Et c'est là que j'ai découvert donc Inner City. À l'époque, c'était Big Fun. Donc Inner City, c'est Kevin Sanderson. Et ça, c'est la claque, quoi. Parce qu'il y avait vraiment... Il y avait un côté pop, il y avait le côté électronique, il y avait le côté puissant de l'électronique, il y avait le côté chanté, mélodieux, qui était intéressant. J'ai l'impression que j'avais trouvé un morceau qui réunissait un peu tout ce dont j'avais besoin comme musique à ce moment-là. Puis on était jeunes, donc on avait aussi besoin de choses qui étaient, on va dire, dynamiques, puissantes. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert la musique de Détroit. Et à partir de là, j'ai commencé à... Donc j'ai été acheter le disque, évidemment, mais du coup j'ai découvert tout ce qu'il y avait derrière, parce qu'en fait c'était la vitrine, hein. Inner City à l'époque, c'était vraiment la vitrine de la ville de Détroit, une belle vitrine parce que c'était un tube mondial, mais derrière ça il y avait plein de choses super intéressantes, beaucoup plus underground, finalement dans le même esprit, mais on va dire beaucoup plus radical. Et de là, ben, en fait, je me rangeais les disquaires, en fait, c'était la porte d'entrée vers tout l'univers de Détroit, en fait.
La techno est née à Détroit, mais le label marketing techno, elle le doit à un Anglais, Neil Rushton, patron de label et organisateur de soirées Northern Soul. Ce n'était pas écrit, car Rushton était allé dans le Michigan pour dénicher des raretés Motown. Il est tombé sur les pionniers de Détroit par hasard. Il a réuni les meilleurs morceaux dans une compilation intitulée « Techno, le nouveau son dance de Détroit ». Mais les Belges n'étaient pas en reste. À Gand, Renat van Papelire, fondateur du très respecté label R&S, s'est empressé de signer les meilleurs artistes de techno.
Pour moi, le premier morceau techno, c'est It Is What It Is, de Derek May. Parce que je viens de la soul, et c'est spacey. Donc, quand j'ai écouté ça, je me suis dit, ah ouais, d'accord. Alors au début, les disques maxi, c'était des white labels. Je recevais 2-3 exemplaires. Et sur les macarons des disques, tu avais juste un numéro de fax et peut-être un numéro de téléphone. Donc, j'ai appelé Derek tout de suite à Détroit et je lui ai dit « J'adore ta musique et si tu veux venir, je t'envoie les billets, on se voit très bientôt ». À Détroit, il savait très bien que les choses bougeaient et on a acheté pas mal de billets d'avion. Imagine, tu es aux États-Unis ou dans n'importe quel endroit du monde et tu fais de la musique. Et pour moi, au passage, c'est encore la meilleure musique qui n'a jamais été faite, car elle a été créée dans leur chambre à coucher. Ils n'attendaient rien en retour. Ils ne savaient pas. Personne ne savait d'ailleurs que ce style allait encore marcher 40 années plus tard et qu'il aurait un impact commercial.
Commercial impact. So if somebody appreciates your work, of course you're happy.
Les États-Unis ont tardé à reconnaître leurs enfants, mais pour Alan Oldham, ce n'est pas très surprenant.
Some of this stuff got US US licensing, but only when it was released.
Certains morceaux ont une licence américaine, mais seulement après avoir été sortis en Europe.
I remember Kenny Larkin's album Azimuth.
Je me souviens que l'album de Kenny Larkin, Azimuth, est sorti sur un label américain, mais il avait déjà été signé par RIS. Il y a pas mal de compilations qui sont sorties aux États-Unis après avoir été signées en Europe, en Angleterre ou en Europe continentale. Mais c'est assez classique. Si tu regardes l'histoire de la musique, c'est classique.
It's like when blues was picked up by white Englishmen.
Quand le blues a commencé à séduire des Anglais blancs, qui l'ont réinterprété à leur façon, le blues est revenu aux États-Unis.
The British musicians would start name checking.
Les musiciens anglais ont commencé à citer leurs influences lors d'interviews. On leur demandait quelles sont vos influences.
Howling Wolf, Muddy Waters, you know. And then when they started,
et ils ont cité Howling Wolf, Muddy Waters. Et c'est parce qu'ils ont été cités que ces musiciens ont connu une renaissance.
So if you know the history of music, it's the same with jazz.
Et il s'est passé la même chose avec le jazz, parce que le jazz a été considéré légitime seulement après avoir été adoubé en Europe, et en France en particulier. On parle de formes artistiques noires qui ne sont pas prises au sérieux aux États-Unis, à moins d'avoir été adoubées au préalable par les Européens.
So just to give it a little bit of a wider context, 1986-1987, that's 17...
Pour revenir à votre contexte à vous, en 86-87 à Détroit, donc 17 années après le départ de Motown, quelle était l'ambiance? Est-ce que c'était encore la gueule de bois post-Motown? Comment décrire la scène à l'époque?
À l'époque, c'était le vide total. Motown était parti depuis longtemps et l'industrie automobile aussi. Les chaînes de montage et d'assemblage et tout le reste. Il y avait peu de boulot. Moi, j'avais eu mon diplôme à l'université de Wayne State en 1988, mais je n'avais pas de boulot. Il n'y avait pas de travail.
When this techno thing started maturing, it started happening. A lot of people jumped on it.
Et donc, quand la techno a commencé à se développer, tout le monde s'est jeté dessus, parce qu'il ne se passait rien à l'époque à part la techno, surtout pour les jeunes noirs. Et moi, je faisais toujours mes BD, mais ça ne décollait pas. Les dessiner prenait du temps, me faire payer prenait du temps, les publications prenaient du temps, tout était trop lent.
Et mon moment était que I was in my grandmother's basement, my late grandmother.
Et un jour, j'étais en train de dessiner dans la cave de ma grand-mère.
And I had seen in the paper that Dave Gahan was at Derek May's loft. And
et j'ai vu dans le journal que Dave Gahan était au loft de Derek May. Dave et Martin Gore de Depeche Mode.
And there's a picture of, and it's on the internet and everything. It's a picture of Dave and Derek. And it was at Derek's place. And I'm like, okay.
Et je vois la photo de Dave chez Derek. Et je me dis, attends, là, stop. Le gars avec qui j'ai passé toute mon enfance, il traîne juste tranquillement avec Depeche Mode chez lui. Et moi, je suis dans une cave à faire des BD.
Something's not adding up.
Il y a un truc qui cloche. Je suis en train de louper quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'apprendre à être DJ, de sortir et de jouer dans des clubs.
Les DJ de Détroit ont squatté les platines les étés 88 et 89 pour les deux Summer of Love du Royaume-Uni, touchés de plein fouet par la déferlante Acid House et la consommation massive d'Ecstasy. Berlin aussi s'est imposé sur la scène, avec des clubs à la programmation pointue comme le Trésor, l'Iverk puis le Berghain. Ils programment des DJ allemands, mais aussi les meilleurs producteurs de Détroit comme Jeff Mills et plus tard DJ Stingray.
Et
qu'est-ce qui vous a conduit à vous installer en Europe et spécifiquement à Berlin?
Alors à Berlin, j'avais fait une mini tournée en 2014. Et je suis restée à Berlin pendant un mois. J'avais un petit appartement et je jouais tous les week-ends. Et je me suis dit, mais ça me plaît bien ici en fait. Je venais chaque année à Berlin et les promoteurs me disaient toujours, préviens-nous si tu viens, on te programmera. Mais je n'y ai jamais fait très attention. Mais après ce mois ici, ça a changé. Ici, tu peux acheter une vodka à 5h du matin au magasin du coin ou au café. J'allais dans un restaurant turc où je mangeais ces shawarmas. Tu pouvais aller partout et commander un shawarma que je trouvais plus diététique que nos pizzas et nos Burger King et McDo. Et puis personne ne m'embêtait, les métros arrivaient à l'heure. Je suis allée au club Bergen et dès la première fois, ils m'ont laissé entrer sans problème. Et je me suis dit, je ne vais jamais pouvoir jouer ici, ça ne va jamais marcher. Donc c'était pour toute une palette de raisons, c'était une grande ville, mais le mouvement dans la ville était relax. On ne se bousculait pas. J'aimais bien me déplacer en métro, c'était chouette. Et donc, je me suis promis de revenir une ou deux fois par an. Et je l'ai dit à mon agent. Et elle m'a dit, mais si tu veux aller à Berlin, je peux te trouver plein de dates. Et le lendemain, elle m'a envoyé un mail avec une liste de tous les gens qui étaient partants pour me programmer. Une longue liste. Je n'en revenais pas et je me suis dit, ok, je vais venir ici. Et puis je suis venue parce que c'était pratique pour gagner toutes les capitales européennes.
Aux États-Unis, les choses ont sérieusement commencé à bouger avec l'émission de MTV, AMP, une consécration tardive par procuration. Et ce sont surtout les Britanniques qui ont décroché le gros lot, et notamment les Chemical Brothers, avec leur album Exit Planet Dust. Dave Aslam, DJ au club de l'Hacienda de Manchester, leur avait emboîté le pas.
In 1990...
En 1990, nous avons fait une tournée aux États-Unis avec 4 ou 5 DJ de la Hacienda. On s'est partagé l'Amérique et je suis allé jouer à Détroit, Chicago et Boston. Pour moi, cette tournée était un peu ridicule parce que Détroit était l'une des grandes capitales musicales du monde.
Tu avais le MC5 et Iggy Pop qui venaient des banlieues de Détroit. Tu avais Motown dans les années 60. Et la moitié des disques techno que je jouais venaient de Détroit. Donc je me suis demandé, mais pourquoi sommes-nous ici? Et je n'avais pas encore compris que nos sets de DJ avaient ici Manchester au niveau de Détroit, Berlin et New York en tant que capitale musicale du monde. Et je me souviens du trajet en limousine entre l'aéroport de Détroit et le club. J'étais avec un autre DJ de la Hacienda, Graham Park, et on était hilarants, complètement hystériques. On n'en revenait pas. On allait jouer à Détroit et être payé pour ça, bien sûr, mais c'était pour de vrai.
En voyageant partout en Europe, la techno a connu des mutations par dizaines.
L'Angleterre lui a donné des accents jamaïcains avec la drum and bass, la jungle et le dub. Dans le sud, Brighton est devenue la capitale du big beat. Alex Paterson, fan de reggae mais aussi de Brian Eno, avait déjà inventé l'ambient house music avec son groupe The Orb.
Back in 87, when I was getting these tapes from New York.
En 1987, je continuais de recevoir des cassettes d'une émission radio de New York, 98.7 Kiss FM, une radio que j'écoutais religieusement depuis
1981.
Je me souviens d'un remix de Blue Monday par des musiciens dance music américains.
En 1987,
et en 1987, l'émission d'une heure sur ma cassette de 90 minutes que je recevais chaque semaine de New York, eh bien la formule avait changé. La deuxième moitié de l'émission, c'était un truc que je n'avais jamais entendu. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'était de la musique house de Chicago, avec de la techno de Détroit. Et moi, à l'époque, mon job pendant la journée, c'était d'être agent au label EG. C'est le travail qui me permettait de financer mes expériences de musicien. J'étais agent impresario à EG, le label de Brian Eno. J'écoutais de la musique ambiante toute la journée. Et le soir, j'écoutais de la house. Et j'ai pensé, si on mélangeait les deux styles, ça pourrait très bien marcher. C'est assez simple en fait. J'étais au bon endroit au bon moment pour la rencontre de ces deux musiques. Et la première fois que je suis allé à New York, j'étais avec le batteur de Killing Joke,
Paul.
Killing Joke ne faisait pas grand chose, donc j'ai enregistré des sessions de batterie avec lui. Et le jour d'après, qui était le jour de mon anniversaire, on est allé dans un club et le DJ a passé mon morceau de The Orb. Les gens ne savaient pas ce qu'ils écoutaient, mais ça, je m'en foutais. Il passait mon disque, j'avais réussi. Et puis Paul s'est fait jeter du club en boule punk dépressif et agité qu'il était. Le fait qu'il soit anglais n'a rien arrangé, je pense.
Do you remember what, c'était quel morceau de The Orb?
C'était Loving You, Huge Ever Growing Pulsating Brain. Dans notre grande naïveté, on a sorti la version originale de ce morceau avec le sample de Minnie Riperton. Et on a eu un procès car on n'avait pas les droits. Alors on a demandé à quelqu'un d'autre de reprendre son chant en studio et puis on a pu isoler le chant et jouer avec. Mais le morceau était en train de devenir culte, ce qui ne m'était jamais arrivé. Donc j'étais ému.
Emotion. I've never heard it in a nightclub before in New York. I'd heard it in London.
Je ne l'avais jamais entendu dans un club avant. Enfin, si, je l'avais entendu à Londres. Mais là, c'était une autre catégorie. C'était à New York. C'était notre mec. Là où on veut tous arriver. Donc j'étais là. Ça y est, j'y suis.
Poor little Brit trying to do house music, you know, as a white boy as well, but from England as well. There's all these things stacked against you.
Le pauvre petit anglais qui fait de la musique house. Le petit blanc en plus qui vient d'Angleterre. Tu pars pas bien placé, mais tu arrives. C'était une gratification personnelle. Les Beatles avaient commencé. Elvis avait fait l'inverse. Il s'était fait connaître en Angleterre avant d'exploser aux États-Unis.
Les artistes d'Europe continentale se sont eux aussi emparés de la techno. Elle a fleuri en Belgique et en Hollande avec une techno dure, souvent trance, mais aussi en Allemagne et en Italie, au service d'une étonnante redistribution des cartes dans un monde musical longtemps sous domination anglo-saxonne. En France, Laurent Garnier prend le train en marche dès le début, mais il est surtout adulé outre-Manche. La Major Virgin signe Daft Punk, jusqu'alors sur le label écossais Soma. Étienne de Crécy fonde Motorbass avec Philippe Sdard. Il y a aussi Alex Goffer, Bob Sinclair,
À l'étranger, les journalistes commencent même à parler d'une scène électronique French Touch. Étienne de Crécy.
Moi, je découvre les raves en 92, je crois, la première rave qu'on a fait 91 à 92. On sort beaucoup, on est toute une bande, on habite donc en coloc dans un appartement, on travaille tous dans les studios d'enregistrement. Et en fait, une fois qu'on a découvert la musique, qu'on est beaucoup sorti, tout d'un coup on se rend compte donc qu'il y a des DJ, qu'il y a des vinyles, qu'il y a une production incroyable, et que la production arrive du monde entier, beaucoup des États-Unis, et en fait, je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, énormément de Belgique et de Hollande aussi. En fait, là, moi où je croyais, en fait, la musique, les premières raves où je suis allé, en vrai, le son était plus belge que Détroit. Mais belge parce qu'ils importaient la musique des États-Unis. Mais Détroit, il y a un côté que je lis aujourd'hui comme plus intellectuel, on va dire, moins ecstasy, en fait, que les Belges qui prenaient plus de drogue, je pense, que les gens de Détroit. J'ai l'impression qu'il y avait un côté... Il y a un côté plus intello dans la musique de Détroit que dans la musique belge. Mais donc, il y a effectivement toujours ce dialogue Europe-États-Unis.
Les Anglais s'en sont emparés pour faire notamment de l'acid house, puis de la drum and bass. Les Belges, vous le disiez, c'était quand même assez rêche, hein, assez dur. Les Français, comment, si on peut oser résumer, ils en ont fait quoi à ce moment-là, aux premières moitiés des années 90?
Eh ben, on va dire que la musique anglaise et belge, et même de Détroit, c'était une musique qui était assez dure. Et je pense que c'était... nous, on l'a embourgeoisé, en fait, la musique. On a fait en sorte que ce soit plus la fête, plus... les raves, c'était quand même des soirées assez... grâce à la drogue, c'était très bon enfant et très sympa, mais c'était quand même des fêtes qui étaient assez dures. C'est-à-dire les sons de système étaient forts, ils n'étaient pas toujours bien réglés. C'était dans des endroits, dans des friches industrielles. C'était un environnement qui était assez assez dur. On va dire, nous, les Français, on a dit, venez, on amène cette musique-là dans les clubs où, tu vois, on va boire du champagne. On va avoir des belles boîtes de nuit... j'exagère un peu, hein. Moi c'était pas obligatoirement mon ambition, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on a fait, sans le faire exprès, mais tout d'un coup, le fait de ramener justement ces sonorités qui existaient déjà, cette ambiance disco en fait, où c'est vrai, dans la culture française, le disco était, en fait, il y a des gros compositeurs de disco, en fait, finalement, en France, il y a des artistes français qui ont fait des énormes tubes de disco, et donc on a cette culture-là en France, et c'est vrai qu'on a ramené cette musique très industrielle, très dure, très working class. On l'a rendu comestible pour la bourgeoisie, on va dire.
On observe un retour aux sources chez certains jeunes Européens aujourd'hui. Ils ont des logiciels en plugin, mais ils se mettent à acheter du hardware, c'est-à-dire de vrais synthés, de vraies boîtes à rythme, vintage ou non. Ils ne mixent plus uniquement sur des clés USB, ils passent aussi des vinyles. Il y a aussi un profond respect pour le son et les valeurs de Détroit, qui continue d'inspirer Azo, DJ au Fuse à Bruxelles.
Moi et tous mes amis, on est trop fans de la techno de Détroit. Enfin, je pense que mon collectif préféré, c'est Underground Resistance. Et ma formation préférée dans Underground Resistance, c'est Galaxy to Galaxy. Galaxy to Galaxy, c'est un projet de Underground Resistance qui a créé un genre qui s'appelle le high-tech jazz. Et donc, du coup, c'est un mélange de techno et de jazz. Et je crois que dans les dernières années, ils ont fait un concert. Et par hasard, en fait, j'étais à ce moment-là à San Francisco, en fait, pour le travail. Et donc, du coup, j'ai vu le seul concert qu'ils ont fait sur, je sais pas, peut-être les 10 dernières années. Et c'était le plus beau concert de ma vie. Donc ils ont des morceaux, c'est incroyable, avec du saxophone, des rythmiques. Enfin, c'est un bend, en fait, mais de techno. C'est vraiment trop bien. Et donc ouais, moi je suis trop fan de la techno de Détroit et trop respectueuse aussi de ces pionniers et de leur approche, en fait. Parce qu'ils avaient déjà à l'époque une approche qui était super inclusive. Et la techno aussi, c'est un vecteur de message, en fait. Enfin, et je pense que c'est super important quand on a un artiste de pouvoir utiliser la place qu'on a et la parole qu'on peut transmettre pour diffuser des messages d'inclusion. Et donc, du coup, Ils ont vraiment prôné des messages comme mettre en avant la musique plutôt que le musicien, défendre la communauté afro-américaine dans la ville de Détroit. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment des pionniers à tout niveau, en fait.
Le DJ britannique Luke Slater a pris le virage de la techno en 1989.
Si vous parlez à quelqu'un comme moi qui suis sur le circuit depuis longtemps, des premiers morceaux de techno de Détroit et de Chicago, ce qui m'a frappé, c'était à quel point ils étaient empreints de mélancolie. À l'époque, ils ont été une forme de thérapie pour moi. Quelque chose de ma psyché adhérait totalement à cette approche. Ils ont eu un énorme impact émotionnel chez moi.
It meant a lot emotionally.
Tous ces premiers morceaux, en particulier ceux de Derrick May, avaient énormément de profondeur. Il y avait quelque chose de vraiment spécial dans ces morceaux.
Et il y a aussi un gros parallèle aussi, je ne sais pas pourquoi, entre la Belgique et la musique de Détroit. Donc, je ne sais pas si vous savez, par exemple, Underground Resistance, ils ont composé un morceau qui s'appelle Belgian Resistance. Et bah, par exemple, on compare souvent donc, Détroit à Charleroi, qui sont des villes minières. Et il y a eu pas mal de gens comme Fabrice Ligue aussi qui composaient un peu de la techno de Détroit.
Donc cette relation entre l'Europe et l'Amérique du Nord, au niveau de la techno, elle se poursuit ?
J'ai l'impression que de plus en plus les gens se conscientisent. Je pense aussi, je suis assez fière de la nouvelle génération qui est beaucoup plus attentive face aux questions d'inclusion, que ce soit au niveau de la communauté BIPOC, que ce soit au niveau de la communauté queer, que ce soit au niveau de l'inclusion des femmes. Et j'ai l'impression que du coup les gens s'ouvrent un petit peu plus à l'origine de la techno et d'où ça vient et respectent un petit peu plus aussi les pionniers qui ont créé cette musique et se disent ah oui en fait la house elle a été jouée à Chicago et c'était joué par les personnes aussi de couleur et la communauté LGBT et c'était déjà des personnes qui étaient un peu considérées comme des minorités qui ont créé cette musique comme la musique de Détroit aussi.
Things are very different now in communication around the world than they were back then. And the only communication.
Les choses ont énormément évolué dans les façons de communiquer à travers le monde.
That we were getting records here, and they were getting records from the UK there.
À l'époque, la seule communication au tout début de ce style de musique est que nous trouvions leurs disques ici. Et que là-bas recevaient nos disques à nous. À cette époque, il y avait pas mal de breakbeat assez rêche et cru en Grande-Bretagne. Et je me souviens que nos disques allaient là-bas et on s'empruntait des choses de part et d'autre de l'Atlantique. Nos breaks commençaient à s'inviter dans les productions américaines et la techno a muté en Grande-Bretagne. Et ces allers-retours sont devenus monnaie courante. Mais nous les avons cultivés. C'était une forme de communication. Et on le faisait tout le temps. Ça m'est arrivé à moi, mais aussi à d'autres aux États-Unis.
it happened there as well. It was almost like an endorsed.
C'était presque une façon de nous adouber les uns les autres, de nous faire des compliments. C'était une façon de nous parler. Je pense que tout cela a beaucoup changé, car on ne communique plus seulement par le biais d'un morceau de vinyle. Aujourd'hui, les mots sont partout, alors qu'au début, la musique était un vecteur de communication puissant, parce qu'on ne pouvait pas faire de recherche sur les auteurs, leur histoire, et ce qui avait entouré le disque. Tout était contenu dans le disque. Et je pense que c'est un aspect important de la musique. Il nous faut un mix d'influences en permanence.
Technomusique, aller-retour transatlantique, un documentaire de Nicolas Champeau, réalisé par Gaël Gillon. Avec Alex Patterson, Luke Slater, Mark Moore, Dave Aslam, Étienne de Crécy, Pierre Eville, Alan Oldham, DJ Stingray, Fabrice Ligue, Renate Van Papelire et Azo. Prise de son, Benjamin Thuo, Virginie Lorda, Bastien Varigo et Dimitri Paz. Mixage, Benjamin Thuo. Archivina, Emmanuel Lucioni. Documentation, Anne-Lise Signoret. Doublage, Lise Combe, Maëra Chouaki, Régis Royer, Laurent Lederer et Clara Chabalier. Chargée de programme, Marivonne Bolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran et Johanna Bedeau. À suivre dans la série Techno Music Non-Stop, l'épisode 3, Trésor et Hacienda, deux temples de la révolution technologique.